Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Ronelindi Modera Idi Amin.
J'espère que vous êtes bien branchés sur Radio Kapi et que vous êtes prêts à suivre cette édition à la une. Au moins 15 personnes perdent la vie chaque jour dans les territoires des Mambasa, une zone en proie à la maladie à virus Ebola. Cette situation résulte du refus de reconnaître l'existence de la maladie par le membre de la communauté, entraînant le non-respect de mesures barrières dans cette partie de l'Ituri. 185 élèves finalistes ayant obtenu plus de 80% à l'examen d'État ont reçu des bourses mardi à Kinshasa. Venus de tout le coin de la RDC, ces lauréats bénéficieront de l'appui du gouvernement pour poursuivre leur formation universitaire et contribuer à la reconstruction du pays. La dégradation de la situation sécuritaire dans les territoires de Mambasa à Ituri a fait la une de l'émission Dialogue entre Congolais hier soir. Entre déception et interpellation, les participants ont formulé des recommandations utiles pour contenir la menace des ADEF. Comme annoncé au sommaire, la situation sanitaire devient préoccupante au point kilométrique 51 dans les territoires de Mambasa où une centaine de décès communautaires ont été enregistrés en une semaine. Plus de 40 structures de santé auparavant opérationnelles dans cette entité minière ont fermé leurs portes, tandis qu'une partie du personnel soignant s'est réfugié à Niania. Cette fuite fait suite à la destruction du centre de traitement d'Ebola le 30 juin dernier par certains habitants qui nie l'existence de l'épidémie. Le médecin chef des zones tire la sonnette d'alarme. Beaucoup plus de détails sur cette affaire avec Isaac Remoyope.
Entre 10 et 15 décès communautaires liés à Ebola sont enregistrés chaque jour au point kilométrique 51 dans les territoires de Mambasa, à environ 45 km au nord de Bunia. Au total, une centaine de personnes sont mortes à l'espace d'une semaine, selon le médecin chef des zones de santé de Niania. Il attribue cette situation au refus d'une partie de la population de reconnaître l'existence de l'épidémie. Cette contestation a conduit au saccage du centre de traitement d'Ebola le 30 juin dernier. À la suite de ces violences, 40 des 50 structures sanitaires de cette agglomération ont fermé leurs portes. Les personnels soignants et les relais communautaires, pris pour cible par les manifestants, ont également quitté la zone par crainte pour leur sécurité. Cette situation empêche non seulement la prise en charge des malades, mais aussi les activités de sensibilisation et de prévention, explique des sources médicales locales. Selon les mêmes sources, cette méfiance favorise la propagation de l'épidémie. Des habitants continuent de rejeter les mesures de prévention et manipulent les corps des victimes d'Ebola sans précaution. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Le Centre culturel des pays d'Afrique centrale a accueilli mardi 28 juillet la première édition de la cérémonie des remises des bourses Excellencia RDC. Cette première cohorte rassemble 185 lauréats venus de toutes les provinces du pays. Placée sous le thème « Bâtisseurs du Congo des demain », la cérémonie s'est déroulée en présence du couple présidentiel de la première ministre, de députés ainsi que plusieurs membres du gouvernement. Destinée aux élèves ayant obtenu au moins 80% à l'examen d'État, cette bourse vise à former une élite engagée et prête à contribuer activement au développement de la République démocratique du Congo. Les détails dans ce reportage de Jody Daniel Kanchama.
Une cérémonie haute en couleur marquée par des séquences chargées d'émotions. Ils étaient 185, ces lauréats habillés en toge bleue, tête coiffée des chapeaux carrés. Venus des différentes provinces du pays, ils ont reçu leur bourse des mains du couple présidentiel Félix et Denise Tshisekedi. Certains n'ont pas caché leur joie.
Du complexe scolaire La Grandeur, à Colésie, au Loualaba. Je suis très contente, en tout cas je ne m'y attendais pas.
Taou Niangongo, Ange, du lycée Kabamba, 79%. Juste, je suis fière de mon parcours parce que mes années de lycée n'ont pas été faciles, mais ça payait. Et aussi beaucoup de joie, parce que je suis la première de ma famille à avoir ce genre de pourcentage, surtout à l'examen d'État.
Les parents ont accompagné leur progéniture. Ils sont pleins de gratitude.
Sentiment de joie, sentiment d'allégresse. Nous remercions notre première dame d'avoir cette initiative.
C'est à la fois un honneur et aussi une joie. Aujourd'hui, pour moi, c'est un grand honneur.
Initié en 2019 par la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, Excellencia est désormais un programme du gouvernement congolais sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation. Une note triste lors de cette cérémonie, c'est l'annonce du décès d'un candidat quelques jours avant l'octroi de la bourse. Une minute de silence a été observée en sa mémoire.
Nous allons à Lubumbashi, dossier du retard de la paix des enseignants du territoire de Malembankulu. La Direction nationale des contrôles de la préparation de la paix et de la maîtrise des effectifs des enseignants d'Inakopé réagit dans une déclaration faite. Nous sommes mardi, les chargés des suivis de la paix à la d'Inakopé dans la province éducationnelle au Lomami 2 a annoncé que l'opérateur des paix Caritas a adressé une correspondance aux directeurs provinciaux des contrôles de la paix des enseignants des Olomami 1 et 2. Dans cette correspondance, Caritas souligne que l'enveloppe salariale que le gouvernement octroie à la société des microfinances IFOD pour la paix des enseignants ne lui permet pas de couvrir tous les diocèses à la fois. Caritas doit être contraint d'instaurer un système de délestage dans la paix des enseignants. On écoute Niki Ngoi Kasangila, chargé de suivi de paix à la d'Inakopé dans la province du Haut-Lomami 2 au téléphone de Paulin Munanga.
Le mois de février, l'air a été payé en mars. Le mois de mars, l'air a été payé en avril. Le mois d'avril, l'air a été payé en mai. Mais après l'opération des pays, nous avons reçu un document du mois signé, un document authentique de la révérende sœur, la chef d'agence de la Caritas Kamina, qu'elle a adressé au diprocope du Haut-Lomami 1, au diprocope du Haut-Lomami 2, où je suis avec deux opérateurs des pays là-bas. Elle nous a parlé du délestage du diocèse de Kamina pour la paie du mois de mai. C'est-à-dire, le mois de mai ne sera pas payé dans les délais parce que Kamina a été délesté. Il faudra attendre les deux mois à la paie du mois de juin. Le mois de juin est déjà passé partout. Et nous sommes en train d'attendre le mois de juillet. Donc, d'office, tous les enseignants ont été délestés. Ils ont été privés de leur salaire simplement parce que le gouvernement n'avait pas donné l'enveloppe suffisante selon les explications du document. Ceux qui sont payés par la TMB, ils doivent attendre après 4 ou 5 jours parce que la paie à la TMB électronique. Mais du côté Caritas, la paye est manuelle. Donc il faudra que la Caritas se déplace vers le lieu.
Contacter la révérende Auxerre, chef d'agence de la Caritas à Kamina, n'a pas voulu s'exprimer à ce sujet. 10 établissements scolaires incendiés en l'espace des mois dans les territoires de Nyunzu, dans la province du Tanganyika. Si les autorités éducatives accusent des jeunes délinquants d'être à l'origine de ces actes, d'autres sources évoquent plutôt la colère d'une partie de la communauté liée au retard dans l'inauguration des écoles construites dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Les détails, c'est avec vous, Paulin Munanga.
Les dégâts matériels sont considérables. Plusieurs bâtiments scolaires, notamment des salles de classe avec leurs charpentes et toitures, ont été entièrement détruits par les flammes. Le chef de la sous-division de l'éducation nationale de Nyunzu condamne fermement ces actes qu'il qualifie d'ignobles. Mwamba Salumu attribue ces incendies à des jeunes délinquants et souligne qu'il s'agit d'une situation sans précédent dans le territoire de Nyunzu.
Nous avons harissé au moins l'incendie de 10 écoles. Les auteurs, nous avons constaté que la délinquance est livrée et l'utilisation de chambres que nous avons constaté comme l'élément moteur de cet incendie des écoles.
Cependant, d'autres sources indiquent que ces actes sont les résultats des frustrations pour la simple raison que les nouvelles écoles modernes construites dans le cadre du programme de développement 145 territoires achevées depuis plusieurs mois ne sont toujours pas opérationnelles, ce qui alimente la colère de la communauté. Une occasion pour les sous-provèdes de demander aux autorités de procéder à l'inauguration de ces écoles. Mwamba Salumu demande par la même occasion aux personnes de bonne volonté et des partenaires de venir en aide pour la réhabilitation de certaines écoles incendiées. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Kapabunia, où il est 7h passé de 9 minutes. À Ituri, nous apprenons que des miliciens de la Convention pour la Révolution Populaire CRP de Thomas Lubanga contrôlent les centres de Lenga, chef-lieu de la chefferie de Bahema Badjere dans les territoires de Djougou. Et cela depuis lundi, selon de sources sécuritaires qui confirment les faits. Ces rebelles ont investi cette entité sans combat, profitant de l'absence des forces loyalistes. Des notables dans la région appellent à une intervention rapide de l'armée pour restaurer l'autorité de l'État et protéger la population civile. Martial Kizabiamungu.
Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, l'on peut voir plus d'une cinquantaine d'éléments armés de la Convention pour la Révolution Populaire CRP de Thomas Lubanga-Dilo à plein travaux communautaires appelés Salongo devant le bureau administratif de la chefferie de Baïma Badjere à Lenga. Selon des sources sécuritaires, ces miliciens venus des alentours des Boulets sont entrés à Lenga en l'absence des forces loyalistes en tirant quelques coups de sommation à l'air. Les mêmes sources ajoutent qu'ils ont demandé à la population d'évacuer normalement à ses occupations, tout en laissant des messages hostiles au FRDC et au pouvoir de Kinshasa. Cette situation a créé la psychose parmi la population meurtrie par les conflits armés. Des notables de la région et activistes des droits humains déplorent que ces mouvements armés ne respectent pas le cessez-le-feu unilatéral décrété le 14 mai dernier pour donner une chance à la paix. Les autorités militaires ne se sont pas encore prononcé par rapport à cette situation. Bounia, Martial Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
Kinshasa s'engage à lever tous les alibis avancés par Kigali pour justifier la présence de ses troupes dans l'est de la RDC. Le gouvernement congolais a obtenu des FDLR la signature d'un protocole de désarmement, de démobilisation et de cantonnement. Le ministre de l'intégration régionale Floribert Anzuluni a livré cette information mardi lors d'un briefing de presse tenu aux côtés de son collègue de la communication et médias Patrick Muyaya. Il a précisé qu'à travers cet accord, ces combattants rwandais souhaitent être cantonnés dans des camps sécurisés et viables et que leur retour dans leur pays d'origine s'efface de manière volontaire et non forcée. Les propos de Floribert Anzuluni recueillis par Blaise Ndani Kambala.
Pour ce qui est des engagements, les FDLR se sont engagés d'abord dans une première phase à accepter une démilitarisation, une démobilisation suivie d'un cantonnement sous, on va dire, deux conditions. Le premier élément, c'est que cette démobilisation et ce cantonnement se fassent dans des camps qui soient suffisamment sécurisés. Ensuite, des camps sécurisés et viables. Cette exigence était extrêmement importante parce que dans le passé, il y a eu des tentatives de démobilisation, on va dire, volontaires qui ont échoué parce que le Rwanda avait, en certains cas, attaqué des camps de démobilisation. La deuxième condition, que nous puissions leur garantir que les démobilisés ne seront pas retournés de force au Rwanda. Le retour doit être volontaire. Donc nous avons estimé que ces deux conditions étaient complètement, globalement, acceptables. Dans une deuxième phase, les FDLR se sont également engagés à dissoudre leur mouvement de manière définitive.
Plusieurs habitants des villages de Moulima, Point-Zéro et Rugezi dans les territoires de Fizi, aussi Kivu, ainsi que des Kipupu, Mikenge et Kiseke dans les territoires de Mwenga, croupissent dans la brousse, certains y dormant faute d'abri. Selon des sources locales, ces populations fuient les bombardements attribués à des drones kamikazes en provenance du Rwanda, déclenchés depuis le 24 juillet et toujours en cours dans la zone. Cette situation est dénoncée par le député national Eli de Fizi, Nyamangyoku Ishibwele, qui déplore le fait que même les enfants et les femmes blessées lors de ces attaques peinent à accéder aux soins. Il appelle le gouvernement à intervenir en faveur de ses compatriotes vivant dans des conditions difficiles. Le professeur Nyamangyoku Ishibwele s'est confié à Radio Okapi.
À l'heure où je vous présente cette triste situation, les habitants sont en brousse, les blessés n'ont pas où se soigner, les enfants meurent de faim et ceux qui persistent dorment à la belle étoile, les exposant ainsi à des intempéries et des maladies diverses. En tant qu'élu du peuple, je condamne avec fermeté ces actes ignobles et je demande aux FARDC d'accomplir leur mission régalienne, à savoir protéger la population et leurs biens, et que les gouvernements de la République viennent en aide, en urgence, à cette population, meurtrie par inassistance en vivre et non vivre. À toutes nos populations de l'Est en général, et celles de Moyeu et au plateau en particulier, je salue votre résilience vis-à-vis de cette énième agression du Rwanda, et vous rassurez qu'elle prendra fin et nous en sortirons vainqueurs. Les ténèbres ne régneront pas toujours, a dit le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Des acteurs de mouvements citoyens, de la société civile et des défenseurs des droits de l'homme unissent leurs efforts pour renforcer la démocratie et la bonne gouvernance en RDC. Ils l'ont annoncé mardi à l'UFU de la présentation de leur structure dénommée Coalition des organisations de la société civile africaine pour la participation citoyenne, la paix durable et la bonne gouvernance, tenue dans la salle UTEX de la MONUSCO à Kinshasa. Joyce Mansaka pour les détails.
Pour l'activiste Emmanuel Cole, cette coalition constitue une réponse aux attentes de la population qui souhaite voir émerger une société civile non partisane. Il espère que le véritable besoin des citoyens pourront être exprimés sans retenue.
Cette plateforme est apolitique. Nous n'avons pas une couleur politique. Et nous sommes là pour défendre tout le monde à qui de droit. En plus, notre action à faire de lutter très efficacement à la fermeture de tout le cachot canadien en Afrique et partout dans le monde.
De son côté, Mme Chantal Chabou-Mouinvita compte sur l'expérience et la volonté des membres de cette coalition pour faire de la paix des droits humains une réalité en RDC et en Afrique.
La seule particularité, c'est que nous regroupons les vrais défenseurs des droits de l'homme. Donc des vrais esprits qui défendent, qui promeuvent et qui sont là pour la cohésion nationale.
Cette initiative est saluée par le coordonnateur de la Commission nationale des droits de l'homme, Richard Chibamba, qui espère qu'elle contribuera à faire de la RDC et du continent africain une terre où les membres d'ONG unissent leurs efforts pour une paix durable.
Actualité internationale.
Au Nigeria, c'est au moins 14 villageois qui ont été tués et plusieurs autres blessés lors d'une attaque survenue mardi dans l'état de Benue, a déclaré un responsable local, plongeant un cycle de violence dans la ceinture centrale du pays lié à des conflits fonciers et aux ressources.
L'invité.
La situation sécuritaire continue de se détériorer à Nitouri et dans le grand nord du Nord Kivu. Dans les territoires des Mambasa Nitouri, c'est au moins 32 civils qui ont été tués et plusieurs autres enlevés au cours des 70 dernières heures lors de deux attaques attribuées aux rebelles des ADF dans les localités d'Njiapanda, Bela et Lukaya. Et au Nord Kivu, la société civile constate que cette province s'enfonce dans une crise sécuritaire majeure avec des massacres à répétition. Entre enrôlement forcé et pillage systématique attribué aux ADF, la détérioration de la situation dans cette partie du pays a été au centre du débat entre les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier soir. On les écoute au micro de Guy Maté.
Abdallah Penembaka, vous êtes député national élu du territoire des Mambasa, vous êtes ancien gouverneur de l'Ituri. Après ces reportages que nous venons d'écouter, quelle est votre réaction?
L'impression qui se dégage, moi personnellement, je suis un homme parfois, souvent frustré. Frustré lorsque je me dis, une fois j'ai eu mes maladies, c'est peut-être à cause de la distance. Ça se passe très loin de Kinshasa, loin des institutions. Les ADF ne menacent pas le pouvoir de Kinshasa. C'est pourquoi on ne les sent pas. Tout celui qui menace le pouvoir peut-être de Kinshasa, on les sent et il reçoit une réponse, une réaction appropriée. Le gouvernement n'y met pas suffisamment de moyens. Et quand je dis de moyens, ici, l'autre fois j'ai évoqué ici, il se pose un problème de coordination.
Au mois d'avril dernier, dans cette même émission, vous avez dénoncé la tuerie des 100 civils par les ADF, toujours dans les territoires des Mambasa. Aujourd'hui, trois mois après, vous revenez pour dénoncer encore de nouveaux massacres des civils par les mêmes ADF. Pourquoi, à votre avis, la situation, au lieu de s'améliorer, elle empire davantage? Et vous avez évoqué le fait que Kinshasa ne prend pas au sérieux cette menace ADF. Mais vous ne pensez pas que le fait qu'il y a cette extension territoriale des ADF qui sont maintenant actifs dans quatre provinces, que cela puisse interpeller le gouvernement national afin que celui-ci puisse prendre la mesure de la chose, n'est-ce pas?
En principe. Parce qu'en dehors de ça, vous avez parlé de Otuile, Ouacha. Vous savez que la République a des intérêts à protéger à Ouacha. Ces intérêts-là, s'ils arrivent à être touchés, ça peut affecter gravement la République. Il ne faut pas oublier que des sites miniers qui ont été à un moment abandonnés, pillés, les EDF se sont mis à exploiter. Pangoï n'est pas n'importe où dans le groupement Bakaïko. Et tous ces sites miniers-là, lorsque les EDF, ils envahissent, ils tuent, ils incendient, ils s'accaparent, ils exploitent de l'or. Mine de rien, ça fait 10 ans qu'ils sont là. Le moment est venu pour qu'on prenne cette histoire au sérieux.
Merci Caroline Zanzoukasevita, vous êtes députée nationale élue des Beni Territoires, vous êtes vice-président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, vous êtes également gouverneur honoraire de la province du Nord Kivu. Comment vous comprenez cette détérioration de la situation sécuritaire causée par les ZDF à Ituri et dans les grands nord du Nord Kivu, en dépit de toutes les opérations militaires qui ont été menées contre ces groupes armés?
Il est vrai qu'on peut expliquer la résurgence ou la multiplicité des atrocités des ZDF par beaucoup de facteurs. Mon collègue Abdallah vient de faire une synthèse de certains faits. Il faut d'abord souligner aujourd'hui que la République démocratique du Congo devrait déjà comprendre les modes opératoires des ADF parce qu'il y a plus de 10 ans que nous sommes sur cette guerre. Il faut retenir aussi que les ADF se sont déjà affiliés à une branche islamiste, Daesh, et qui finance aujourd'hui. Et donc, dans le contexte d'aujourd'hui, les ADF ont plus de moyens parce qu'ils reçoivent non seulement les moyens de Daesh. Mon collègue vient de dire qu'ils ont établi des redevances qu'ils perçoivent auprès de la population au niveau du territoire de Mambasa. Aujourd'hui, il faut aussi comprendre qu'il y a des cellules au niveau de la région, en Ouganda, au Rwanda, au Burundi, à Tanzanie, qui contribuent, qui financent. Et donc aujourd'hui, les ADF ont plus de moyens qu'avant. La République démocratique du Congo devra comprendre que c'est de plus en plus qu'on laisse le temps aux ADF. Ces derniers deviennent une menace assez importante contre l'économie et la vie de nos populations, parce que c'est chaque jour qu'on déplore les morts.
Merci, Ildefonso Bwakianakazi, chercheur à Ebouteli. Vous êtes spécialiste de la question ADF. Quelle lecture vous faites de la détérioration de la situation sécuritaire causée par l'activisme des ADF en Ituri et dans les grands nord du Nord Kivu?
Oui, je pense que dans la lecture de ce qui se passe sur notre scène politique nationale, on se rend compte certainement que les questions de sécurité de la population est reléguée au second plan. Ce qui fait qu'on se rend compte que cette question n'est pas priorisée, n'est pas vraiment parmi les prioritaires du gouvernement au niveau central. Et comme on le disait, comme c'est un phénomène qui ne menace pas la stabilité des institutions, cela est relégué au second plan.
Et c'est la fin de cette édition du journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi.